bien suivi, largement suivi, parce que vous savez qu'on a environ 700 postes de santé donc, qui sont fermés. 700 postes de santé, je dis bien, communément appelés dispensaires. Nous avons aussi mis au ralenti près de 110 centres de santé où il n'y a que le service minimum et les urgences. Et sur les 20 quelques hôpitaux, parce que la quasi-totalité fonctionne au ralenti avec le minimum et les urgences. Donc, et les centres de santé aussi, les centres sociaux aussi, parce que le personnel de l'action sociale aussi est en grève. Ouais. Donc nous pensons que nous avons atteint en tout cas l'objectif aussi au niveau pendant ces jours de grève.
Oui, Malo Diacham, cette nouvelle grève de 72 heures, hein, la énième, depuis lors, pas de retour du côté officiel. Est-ce que vous avez été contacté par les autorités, le gouvernement, pour encore discuter?
Non, pas de contact avec le gouvernement. C'est notre secrétaire général décentral, l'UNSAF, pardon, Madame Sok, qui avait été reçue par Monsieur le Président de la République. Et ce dernier lui a promis la tenue d'un conseil présidentiel sur la santé, disons vendredi prochain, le 8. Alors nous avons eu l'information et nous nous préparons en conséquence, d'autant qu'il n'y a que M. le Président Larbi qui est dans cette condition-là pour régler la question. On l'a souvent dit, les ministres pris isolément ne peuvent plus rien régler sur ces questions parce qu'il y a des décrets qui doivent être pris, notamment pour le statut du personnel des établissements publics de santé. C'est un décret que M. le Président doit signer avec son Premier ministre. Oui. Sur la dette hospitalière aussi, c'est M. le Président de la République qui doit donner l'ordre au ministre des Finances pour que cette dette soit épongée, parce qu'il y a près de 10 milliards qui restent en reliquat. Nous avons aussi le recrutement du personnel communautaire. Là aussi, c'est des postes budgétaires qu'il faut donner, autant pour les communautaires que pour le PEDIS. Les recommandations pertinentes des assises de l'action sociale aussi doit faire l'objet aussi de signatures de décret, parce que la loi d'orientation sociale a été votée il y a près d'un an et jusqu'ici aucun décret d'application n'a été signé pour permettre aux handicapés ou bien aux gens en situation de handicap de disposer d'un paquet de soins gratuits, ouais, d'une gratuité des transports dans le public et d'une réduction des transports dans le privé, plus maintenant un quota donc d'emploi au niveau de toutes les entreprises, plus maintenant un fonds d'appui à l'insertion des handicapés qui doit être créé. Et tout cela doit faire l'objet de décret. Donc si nous prenons l'ensemble de ces questions, nous voyons qu'il n'y a que M. le Président de la République qui peut nous tirer d'embarras.
Merci.
Et nous comptons, nous fondons beaucoup d'espoir sur ce conseil présidentiel, parce qu'il ne s'agira pas à ce niveau de négocier, mais il s'agira de prendre des directives. C'est-à-dire, c'est des recommandations qu'on transforme en directives.
Alors, merci Malo Diacham. Vous étiez en direct dans ce bulletin d'information pour nous parler de votre nouvelle grève de 72 heures. On est au deuxième jour de cette nouvelle grève. Et là, vous venez de nous annoncer un conseil présidentiel sur la santé, vendredi prochain, 8 juillet. Ça proteste aussi à Saint-Louis, dans la ville du Nord. Ce sont les éboueurs qui portent des brassards rouges, réclament de meilleures conditions de travail et protestent contre le licenciement de 10 parmi eux. La correspondance de Mohamed Nabissila.
Des agents préposés au nettoyement de la ville de Saint-Louis sont en brassard rouge. Les manœuvres de jour comme de nuit, ils protestent contre la diminution du personnel temporaire et l'insuffisance du petit matériel. Balay sans poste à la main, Amadou Ba explique ne pas comprendre cette mesure alors que l'hivernage s'est installé. Nous n'avons pas beaucoup de matériel, alors qu'on a diminué 10 personnes. Aujourd'hui, le personnel est même insuffisant. Les conditions sont très difficiles. Ce que nous voulons, c'est la réintégration de nos camarades manœuvres pour qu'ils continuent à travailler et que la précarité dans laquelle nous travaillons doit baisser. Il n'y a ni balai, ni bosse, ni autre matériel qui peuvent nous permettre de travailler dans de bonnes conditions. Interpellé, Aaron Ndiaye, chef de la division nettoiement, constate le mouvement d'humeur de ses manœuvres. Des informations font état de rigueur financière. Toutefois, Aaron Ndiaye reconnaît que la diminution du personnel travaillant effectivement sur le terrain au début de cet hivernage pose de réels problèmes. RFM Saint-Louis, Mohamed Nabissila.
Ici à Dakar, ce drame survenu avant-hier à Rebus, un poteau électrique qui a tué un homme. Les populations de Rebus restent sceptiques après le passage de la Senelec hier. La Société nationale d'électricité a fini par se manifester suite donc à l'électrocution d'un jeune homme causé par un poteau électrique défectueux. Mais cette visite n'a pas suffi à apaiser les angoisses des habitants de Rebus. Le problème est loin d'être réglé. Le reportage de Charlotte Lalanne.
Devant la boulangerie de la rue Mangin, le poteau assassin est désormais à terre. La Sénélec est passée hier et a tout simplement fait démonter le lampadaire, couper le courant. Mais pour Serine Diaye, conseiller municipal à Dakar Plateau, cette réaction vient trop tard et ne règle pas le fond du problème.
On doit au préalable régler les défaillances des poteaux électriques. Ils n'ont pas fait leur travail. Le danger a été signalé, mais ils ont refusé de venir. Et quand ils sont venus hier, ils ont dit que la maintenance de ces poteaux n'était pas de leur responsabilité.
Pour Babacar Ngom, habitant du quartier, la Sénélec, en coupant l'électricité, n'a fait que remplacer un problème par un autre.
Ils ont juste enlevé un lampadaire et ils nous privent de l'éclairage public. Nous, nous payons nos impôts. Nous demandons à ce que la lumière soit allumée la nuit pour notre sécurité. Maintenant, enlever un lampadaire parce que ça a électrocuté une personne et puis nous priver d'électricité pendant toute la nuit, c'est pas ce que nous demandons.
En attendant, le danger plane toujours, surtout pour les enfants, selon Aliussar, qui travaille au coin de la rue où l'accident s'est produit samedi.
Les parents, il faut éviter les gosses dans cette rue-là. Les poteaux sont dangereux. Il faut retenir les enfants.
Habitants et commerçants attendent d'autres visites de la Sénélec dans les prochains jours. Bonjour.
Le bulletin d'information sur RFM 9h07. La conférence de presse dans quelques heures, hein, disons dans quelques dizaines de minutes, à 11h précisément, la conférence de presse du porte-parole du président de la République, Serine Mackenzie, se prononce sur la sortie dans son journal français d'un des fils du guide libyen Mouammar Kadhafi, qui accuse le président Ouad et son fils d'avoir encaissé 13 milliards de francs CFA. C'était le prix du soutien aux rebelles libyens au détriment de Mouammar Kadhafi. Mais déjà, avant cette conférence de presse, le porte-parole de la présidence de la République a publié un communiqué pour démentir. Il dit dans ce communiqué que Serine Mackenzie, qui défend de façon la plus catégorique cette affirmation de Saïf el-Islam, qu'il juge fausse et dénuée de tout fondement. Et selon toujours le porte-parole du président de la République, Abdoulaye Wade, tient à préciser: ni lui, ni sa famille, ni son entourage n'ont jamais reçu de l'argent de l'émir du Qatar, ni de l'État du Qatar. Et la seule fois que le président Abdoulaye Wade, selon son communiqué, a eu à discuter avec le Qatar de financement a été dans le cadre d'un projet de protection de l'île de Gorée, patrimoine mondial de l'humanité, contre l'érosion côtière. On suivra donc cette conférence de presse du porte-parole de la présidence de la République à 11h. Les menaces de mort contre le président du Conseil constitutionnel, Cheikh Tidiane Diakaté, le procureur que nous avons joint au téléphone, faut savoir qu'il n'a reçu aucune plainte à ce propos. Ousmane Diagne dit également n'être pas informé d'une quelconque menace contre le président du Conseil constitutionnel, Cheikh Tidiane Diakaté. Le rapport 2010 de la Sénat a été remis au président de la République. La Commission électorale nationale autonome donc a remis son rapport de l'année 2010. Et le président Ouad doit d'ailleurs renouveler le tiers du bureau de la Commission électorale nationale autonome. Mais depuis les informations que nous avons recueillies, Maître Ouad ne veut plus le faire parce qu'il veut éviter que cela fasse l'objet d'interprétations. Mais selon le constitutionnaliste Aboubakar Gueye, si le président Abdoulaye Wade ne renouvelle pas le tiers des membres de la Sénat, alors en ce moment, la Sénat serait une institution illégale. Le professeur Aboubakar Gueye.
Dans ce cas, la Sénat serait parfaitement dans l'illégalité, parce que si les textes, la loi donc qui instaure la Sénat et qui l'organise, prévoit un renouvellement de la composition de la Sénat par tiers, au tiers en fait à une période bien déterminée, si la période survient, le changement devient obligatoire. C'est ce qu'on appelle une compétence liée. Le président de la République, dans ce cas, il est obligé de changer le tiers qui est concerné. Maintenant, si lui, il estime qu'il ne doit pas procéder à ce changement pour éviter des suspicions, ça c'est une volonté personnelle, et cette volonté personnelle est inférieure à la loi, c'est-à-dire que la loi est supérieure à la volonté personnelle du président de la République, et le président de la République doit se soumettre à la loi.
Dans ce cas, la Sénat est donc dans l'illégalité.
La plus totale, parce que si aujourd'hui le mandat de certains membres de la Sénat est arrivé à terme, on doit renouveler la composition de la Sénat, donc on doit mettre d'autres personnes à leur place. Et sur soi,
réversé
dans une illégalité qui n'aurait pas de nom.
9h10, merci de rester sur RFM. Bonne journée.